France Inter, Alexandra Ben Saïd, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et soyez les bienvenus sur France Inter, lundi 17 février. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la campagne éclair d'Agnès Buzyn pour conquérir Paris a débuté hier soir. C'est le chef de l'État qui a convaincu sa ministre de la Santé de se lancer après la tempête Griveaux. Reportage, analyse politique et réaction dès le début du journal, après les autres titres, Agnès.
L'hôpital de Quimperlé avait été alerté du comportement de Joël Le Scouarnec bien avant son arrestation pour pédophilie. C'est une information France Inter. Les députés entament aujourd'hui l'examen du projet de loi retraite. Conséquence de la tempête Denis, un TGV met 15 heures pour relier Nantes à Paris. Et puis portrait du nouvel homme fort du biathlon français, Émilien Jacquelin.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Alexandra.
C'est la porte-parole de La République En Marche, Aurore Berger.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Pas une seconde à perdre. Agnès Buzyn a 4 semaines exactement pour convaincre les Parisiennes et les Parisiens qu'elle est la candidate logique de La République En Marche pour la mairie de Paris. Tout s'est accéléré hier en fin d'après-midi, désignée officiellement. Agnès Buzyn a aussitôt démissionné de son poste de ministre de la Santé et des Solidarités avant de se rendre dans un café du 9e arrondissement. Sébastien Sabiron a suivi les premiers pas de la nouvelle candidate en campagne. Reportage.
Premier déplacement de candidate dans un café baptisé Mon Paris, avec un point d'exclamation. Voilà pour le symbole. Pour le reste, il faut montrer que la campagne continue sur les chapeaux de roue. Agnès Buzyn.
Maintenant, je suis en campagne pour Paris. Cette ville, elle va mal. Elle n'est pas bien gérée. Je suis née là. J'ai vécu là toute ma vie. J'y ai travaillé. J'ai élevé mes enfants. J'ai envie d'être auprès des Parisiens pour régler les problèmes avec sérieux, avec détermination et faire de cette ville ce qu'elle doit être, la plus belle ville du monde.
Autour d'elle, des militants tout sourire qui louent les qualités humaines d'Agnès Buzyn, son empathie, sa douceur, sa capacité à rassembler, plus peut-être que Benjamin Griveaux.
J'aimais beaucoup Benjamin Griveaux, qui est une personne très humaine. C'était pas forcément ressenti par toute la population. Elle, c'est une femme très humaine, c'est une femme qui travaille pour la santé. Elle va apporter quelque chose dans cette campagne, vraiment.
Mission périlleuse à 4 semaines du premier tour. Mais les marcheurs se veulent confiants, convaincus qu'à l'heure des réseaux sociaux, le timing leur est encore favorable.
Finalement, les Parisiens, ils sont assez peu rentrés dans cette campagne. Avec les mouvements qu'il y a eu pour la réforme des retraites, là, ils sont en vacances. C'est vraiment dans les 3 semaines à venir, dans le mois à venir, qu'ils vont faire leur choix et qu'ils vont pouvoir juger sur pièce. Tout est possible.
Et lorsque l'on évoque les nombreux dossiers laissés derrière elle par Agnès Buzyn, coronavirus, crise de l'hôpital, réforme des retraites, les militants haussent les épaules. L'autre nécessité, disent-ils, c'est d'offrir une alternance aux Parisiens.
Agnès Buzyn entame donc à 57 ans une carrière politique sur le terrain. Médecin de formation, spécialisée en hématologie, ex-présidente de l'Institut contre le cancer. Elle était, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, ministre de la Santé et des Solidarités, devenue en presque 3 ans un maillon fort du gouvernement. Bonjour Yaël Gauz.
Bonjour Agnès.
Yaël, c'est ce même Emmanuel Macron qui l'aurait convaincu de se lancer dans la bataille de Paris.
Oui, car sans cette intervention au plus haut niveau, impossible de comprendre le revirement opéré par la ministre qui, vendredi, ici même à ce micro, renonçait au municipal.
J'avais déjà un agenda très chargé. Beaucoup de réformes aujourd'hui dans le ministère et c'est rajouter un surcroît de travail inattendu, malheureusement, qui est cette crise du coronavirus. Je ne pourrais pas être candidate au municipal.
Problème pour l'Élysée, Paris est une vitrine. En Marche y a réalisé des scores fleuves en 2017 et aux européennes. Comment faire campagne sans figure nationale? Comment sortir par le haut après le fiasco Griveaux? Comment trouver quelqu'un d'assez consensuel pour les marcheurs de gauche et de droite? Tout le week-end, de multiples plans B sont échafaudés. Mais face à Hidalgo et Dati, il faut un plan d'urgence à la hauteur du traumatisme subi. Agnès Buzyn, hématologue jamais élue, mais qui est déjà gagnée par le virus de la politique, sollicitée l'an dernier pour les européennes, poussée à l'automne par François Bayrou pour être le plan B à Paris. Hier, toute la garde rapprochée d'Emmanuel Macron l'appelle pour l'encourager à faire le grand saut. Le conseiller Philippe Grandjean, le président de l'Assemblée Richard Ferrand, le patron des députés En Marche Gilles Legendre, tout le monde s'y met jusqu'à l'ultime coup de fil présidentiel. À qui tout double? Agnès Buzyn n'a plus de ministère. Si elle elle perd, elle sera une victime collatérale des sextapes de Benjamin Griveaux. Si elle gagne, elle écrit l'histoire. En attendant, deux enseignements, Agnès. Après l'épisode Villani, le DRH Macron est pour la deuxième fois contraint de mettre les mains dans le cambouis et il aura de nouveau pu constater la faiblesse et la fragilité de son banc de touche.
Merci Yaël Gauz. Et dans ce jeu de chaises musicales, c'est Olivier Véran qui hérite du portefeuille de la Santé et des Solidarités. La passation de pouvoir doit avoir lieu ce matin à 10h. Ancien socialiste, député La République En Marche de l'Isère, neurologue de formation, il était rapporteur du budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée et co-rapporteur de la loi sur la réforme des retraites. Il va donc devoir gérer plusieurs gros dossiers, dont la crise de l'hôpital public. Pour Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France, le départ de la ministre de la Santé est assez incompréhensible.
Ça déstabilise le système de santé. Elle est pas rien. Elle n'est pas d'ailleurs que ministre de la Santé, elle est ministre des Solidarités. Donc ça veut dire que même le chantier, le débat sur les retraites, il va falloir qu'un nouveau ministre s'y intéresse et le reprenne. Donc c'est assez déstabilisant pour nous. La problématique qu'on a à l'heure actuelle, ce qu'on a exprimé encore dans la rue vendredi, elle a ce dossier sur la table qui concerne l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour avoir vraiment les moyens à donner aux hôpitaux. On va repartir à zéro avec un nouveau ministre. J'ai l'impression que ce que voulait faire l'autre zigoto, là, qui a déstabilisé le candidat Griveaux, il a réussi, quoi. Il déstabilise la politique en France. C'est insensé, quoi, ce qui nous arrive. Là. C'est fou parce que là, vous déstabilisez le système de santé.
Patrick Peloux, interrogé par Marc Potdevin. L'enquête, justement, se poursuit pour déterminer qui est exactement à l'origine de la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux. La garde à vue de l'activiste russe Piotr Pavlinsky et de sa compagne Alexandra de Tadeo, à qui ces vidéos du candidat étaient, semble-t-il, destinées. La garde à vue a été prolongée au plus tard jusqu'à cet après-midi. Nous y viendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h06, Agnès, une révélation de France Inter dans la terrible affaire Le Squarneck.
Joël Le Squarneck, ce chirurgien soupçonné d'avoir abusé de 349 enfants. L'hôpital de Quimperlé où il travaillait avait été alerté dès 2006 par un psychiatre de l'établissement que Laetitia Chérel de la cellule d'investigation de France Inter a rencontré. Thierry Bonvallon parle pour la première fois.
J'ai adressé un courrier en juin 2006 au directeur de l'hôpital de Quimperlé, monsieur André Labatte, pour lui faire part d'un certain nombre de doutes que j'avais sur le fonctionnement de ce chirurgien et notamment le fait qu'il semblait pas garder toute sa lucidité, toute sa sérénité au contact de jeunes enfants. Et j'avais des éléments pour avoir ces doutes.
Et vous-même, est-ce que vous avez cherché à parler à Joël Le Squarneck ?
Je suis allé à titre personnel le voir. Je lui ai formulé qu'à mon avis, il y avait quelque chose de dangereux dans sa pratique chirurgicale, de délétère. Je lui ai dit que sa place n'était pas à l'hôpital et je lui ai demandé de démissionner. Il m'a dit qu'on ne pouvait pas l'y obliger.
Joël Le Squarneck continue donc à exercer jusqu'à son arrestation en 2017. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h08, la réforme des retraites arrive à l'Assemblée.
Dans le contexte politique que l'on vient d'évoquer, et après deux mois de contestation sociale, ce lundi est d'ailleurs une journée d'action à la RATP, dont les conséquences devraient cependant être limitées, les députés ont donc en principe jusqu'au 4 mars pour discuter des quelques 41 000 amendements déposés. L'opposition, la France Insoumise notamment, veut ainsi pousser le gouvernement à utiliser le 49.3. Mais Hélène Filly, la majorité promet qu'elle laissera le temps à la discussion et a déjà modifié un peu sa copie.
Il va falloir monter sur le ring bien armé. L'opposition attend le gouvernement sur le calcul du point, indexé non plus exactement sur les salaires, mais un indice, le revenu moyen d'activité par tête, qui n'existe pas encore. La droite prône un report de l'âge légal à 64 ans en 2028, la seule, dit-elle, à assumer la vérité, alors que la gauche fourbit ses armes sur l'espérance de vie et sur les droits familiaux. Sur ce point, le gouvernement a d'ailleurs corrigé sa copie. Dans le texte initial, la majoration de 5% par enfant pouvait être attribuée à l'un ou à l'autre des parents, au risque que tout aille à celui qui a le plus gros salaire, l'homme le plus souvent. La nouveauté, c'est donc que 2,5%, la moitié, ira d'office à la mère. L'éventuel partage se fera sur la moitié restante. Les rapporteurs mettront enfin leur grain de sel sur la pénibilité, appelant les partenaires sociaux à se mettre d'accord dans les branches, faute de quoi un dispositif par défaut leur serait imposé.
Le bilan de l'épidémie de coronavirus continue de s'alourdir. 1770 morts et plus de 70 000 personnes contaminées en Chine. 600 cas recensés dans une trentaine de pays dans le monde. Les experts de l'OMS sont arrivés à Pékin pour une réunion de crise. Pékin où il est désormais impossible de se rendre sans passer 14 jours en quarantaine. Nous y reviendrons dans le prochain journal. En Grande-Bretagne, la tempête Dennis a fait une victime. Le sud du Pays de Galles a été placé en alerte rouge pour des centaines d'avions cloués au sol. Dans l'ouest de la France, c'est le trafic ferroviaire qui a été perturbé. Les 750 passagers d'un TGV Nantes-Paris ont ainsi mis 15 heures pour un trajet qui prend habituellement 2 heures en raison d'un arbre tombé sur une caténaire. Le TGV est parti hier à 14h52 de Nantes. Il est arrivé gare Montparnasse à 5h ce matin. Témoignage de Bruno, passager bloqué.
On a entendu un gros boum 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 sur le train. Tout le monde s'est un peu regardé et on a découvert après via les communications du conducteur qu'en fait un arbre avait cassé un poteau en fait qui maintient les câbles électriques. C'était complètement affalé en fait sur les câbles et que ça avait coupé tout le réseau électrique. Du coup, on n'avait pas de clim, on n'avait pas d'eau, il n'y avait plus de nourriture, donc il faisait chaud, les gens commençaient à s'énerver un peu. Donc, pour ouvrir les portes, garder les portes, s'assurer que les gens n'avaient pas sur les voies, que les gens ne fument pas. Et donc, on a attendu là facilement à peu près 9 heures. J'avoue qu'au début, c'était quand même assez inquiétant parce que on sentait la pression monter, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de nourriture, les informations qui se communiquaient même au sein des agents étaient quand même différentes. Donc c'était assez inquiétant. Et au final, j'ai quand même été très positivement étonné. Les gens étaient très responsables.
Témoignage recueilli par Simon Cardonnet. La SNCF a promis de rembourser les passagers à hauteur de 200% pour cet exceptionnel retard. À noter que 45 000 foyers étaient hier soir privés d'électricité dans l'ouest de la France.
Émilien Jacquelin, retenez bien son nom, c'est le nouveau champion du monde de biathlon.
Et il est français. Émilien Jacquelin a décroché le titre hier en poursuite aux Mondiaux en Italie, au nez et à la barbe de son aîné Martin Fourcade et de la légende norvégienne Johannes Bø, Amaya Cazenave.
À 24 ans, Émilien Jacquelin n'était jamais monté sur la plus haute marche du podium. C'est désormais chose faite sous le regard admiratif de Simon Détieu.
C'est un Émilien avec du panache comme toujours. Et en fait, il est capable de sortir des enjambées incroyables. Et il peut être un très bon finisher quand il a envie. Voilà. Il est bourré de qualité. Il est en train d'éclore, on peut dire.
Un ski puissant, audacieux et une personnalité attachante. Pour l'ancienne championne olympique Marie Dorin-Habert, il a tout pour devenir la nouvelle coqueluche du biathlon français.
Il a toujours la banane, il est toujours content, il est hyper spontané, hyper instinctif, il est super sympa à côtoyer parce qu'en fait il est comme ça, il est tout le temps drôle, tout le temps amical, il n'hésite pas à venir voir les gens, il a peur de rien, Émilien.
Et pourtant, le biathlon, il y est presque venu par défaut. L'Isérois a chaussé les skis pour la première fois pour faire comme ses frères. Son truc à lui, c'est le vélo, un sport qu'il a dû abandonner adolescent à cause d'une mononucléose.
Ce jour-là, je me suis dit, d'accord, le vélo veut pas de moi, donc je continuerai dans le ski. Donc je suis pas un biathlète raté, mais un cycliste raté, ça c'est sûr.
À Anterselva, en Italie, Amaya Cazenave, France Inter.
Et pas de course aujourd'hui au championnat du monde, la compétition reprendra demain avec l'individuel des dames.